Pizen et Valérie. La santé et le bien-être au naturel.
Amis du kiff, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur les ondes, sur Pigouille Radio. On est bien là et je me suis entourée de deux super nanas. Alors vous allez voir, ça sera un petit peu moins le bordel normalement que la dernière fois, hein, parce que c'est vrai que la première émission, c'était quand même assez fun. Il y avait beaucoup de monde, mais là aujourd'hui, je suis entourée de Delphine et de Rebecca. Bonjour les filles.
Bonjour.
Et bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Très bien.
Vous avez retrouvé le chemin rapidement ?
Oh oui, impeccable, ouais. Malgré la pluie, oui, oui.
Ouais, mais en fait, jour pluvieux, jour heureux.
Exactement.
Voilà, c'est tout. Hein. Et quand je suis arrivée dans la voiture, je chantais, c'était quoi la chanson avec la grenouille, là. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Bah oui, mais Pigouille Radio, l'emblème, c'est quoi ? C'est une grenouille. Donc c'était complètement adapté. La prochaine fois, je vais faire une vidéo d'ailleurs, je vais la poster sur les réseaux, c'est n'importe quoi, ça commence bien cette émission. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu sérieux, mais sur le ton de la plaisanterie toujours, de l'humour, de la bonne humeur, parce que vous savez que pour ceux qui me connaissent déjà sur les ondes, je passe mon temps à rigoler, et vous les filles, vous le savez aussi. Maintenant, en tout cas, vous commencez à en avoir l'habitude, non ?
Carrément l'habitude, mais ça fait du bien. Hein.
Ouais, ouais, mais en plus, vous êtes hyper cool, hyper calme ce matin, c'est génial. Hein. En plus, j'ai un aveu terrible à faire, c'est que je ne suis pas hyper en forme. Donc, quelque part, je vais être beaucoup moins pile électrique que d'habitude. C'est bien, hein ?
Ça va nous faire du bien,
ouais.
Valérie.
Je ne sais pas comment le prendre, Delphine, merci. Ok, c'est pas grave. Hein. Donc, on va parler aujourd'hui du cancer, parce que vous savez, cette émission, elle est là pour apporter plein de conseils pratico-pratiques à mettre en place dans le quotidien pour différents sujets. Et là, en l'occurrence, eh bien, au mois de mars, on aborde le mois de mars, ça va être le mois du cancer. Donc, bon, c'est un sujet, moi, qui me touche particulièrement, mais comme beaucoup de personnes, parce que nous sommes, je ne vais pas dire tous, mais quasiment, soit concernés directement, soit nous connaissons quelqu'un qui a pu être concerné par le cancer. Est-ce que c'est votre cas ?
Alors, directement, oui, y a toujours des amis, des proches, plus dans la famille, plus ou moins, justement, où on a plus de contacts ou pas, mais dans tous les cas, oui, on connaît toujours quelqu'un de notre entourage. Malheureusement, qui a un cancer et en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'en fonction des cancers, je pense notamment au cancer de la peau, fait, oh, ça va, c'est ouais. Rien celui-là.
Mélanome, c'est rien, c'est un petit.
Mais ouais, c'est, et en fait, ben non.
Mais
pas,
ça reste ouais. Effectivement quelque chose de compliqué. Et toi, Delphine, tu es concernée ?
Alors directement, non, je ne suis pas concernée. Par contre, j'ai eu à accompagner pas mal de personnes, de femmes principalement, qui étaient en chimiothérapie. Donc voilà, du soutien.
Donc c'est un sujet que tu connais aussi.
Bien sûr.
D'ailleurs, vous qui nous écoutez, tous les mois en fait, tous les thèmes que nous abordons sont différents bien entendu. Et je m'entoure de filles qui ont bien voulu se positionner pour m'accompagner, voilà, pour pouvoir évoquer par rapport à leur pratique et à leur métier, pour vous apporter directement donc, des conseils. Et donc là aujourd'hui, on a Delphine. Je te laisse représenter rapidement quand même ton activité.
Oui, bien sûr. Alors principalement, je me définirais, parce qu'il faut toujours une définition, une étiquette comme sophroanalyste, mais disons que j'accompagne la personne dans sa globalité, aussi bien dans son corps physique que son corps émotionnel, corps énergétique, corps mental et corps spirituel. C'est vraiment un accompagnement global.
Ce qu'on appelle un accompagnement holistique.
Tout à fait.
Et toi, Rebecca ?
Je suis musicothérapeute clinicienne. Alors pourquoi clinicienne ? Parce qu'il y a différentes approches, aussi bien ça peut être éducative, sociale. Donc moi je me suis plus clinicienne étant donné que je veux davantage m'approcher du développement personnel dans toute sa globalité pour la personne. Et donc musicothérapeute et praticienne en massage sonore avec les bols tibétains.
Ça c'est chouette, j'en ai fait expérience il y a quelques années avec une des filles qui fait aussi partie de l'association Santalier, hein, et ça a été une vraie révélation, je ne connaissais absolument pas, j'ai adoré ça, ça a été un vrai moment de lâcher prise, vraiment, ouais. Pour moi lâcher prise c'est très compliqué, me détendre c'est très compliqué, et c'est vraiment le seul soin en fait qui m'a fait complètement partir, j'ai adoré ça.
Mais c'est souvent le retour qu'on a et qui est assez justement homogène, parce que même des personnes qui sont assez réticentes, qui sont pas du tout du côté relâché, prendre un petit moment pour soi, mais justement quand ils testent, c'est un moment vraiment qu'il faut vivre pour se rendre compte à quel point il est unique et à quel point il y a, pour le coup c'est vraiment une harmonisation de l'esprit, du corps, il y a une unicité assez incroyable. Ouais.
Delphine, tu voulais dire ?
Oui, tout à fait, alors j'ai testé moi aussi, hein, et c'est extraordinaire. Et alors, si un jour, Valérie, tu as l'occasion avec cette personne de l'association qui fait des bains sonores comme ça, de venir et de pratiquer le shutaido avec les bains sonores, c'est juste extraordinaire.
Mais écoute, voilà. Avec plaisir. Mais tu sais, je peux te mettre en relation. Elle s'appelle Alexandra Thénon.
Ah, mais c'est, oui, oui. Mais on est en relation. Ah, bah voilà. Donc c'est avec elle. Oui, oui,
ah,
tout
bah
à fait.
Bah voilà. Oui. Donc oui, je viendrai participer à une séance, les filles, dès que j'aurai trouvé un créneau. Alors, pour vous qui nous écoutez, je me représente rapidement. Donc, je suis Valérie, comme le nom de l'émission l'indique. Je suis hygiéniste naturopathe, également praticienne et formatrice en Chinet Sang, qui est un massage thérapeutique viscéral, profond, et les ventouses traditionnelles. Aussi ostéo, auteur, conférencière, animatrice de plein de trucs, enfin voilà. Je kiffe ma vie, moi. Voilà, bon, je suis une hyperactive, donc vous allez vite en prendre l'habitude. Hein. Ceux qui m'écoutent déjà sur D4B, par exemple, le savent. Je fais beaucoup de choses, mais parce que j'aime énormément de choses et je suis ravie d'être sur Pigouille Radio maintenant pour vous apporter plein de conseils. Donc, ce cancer, alors effectivement, depuis 30 ans, on voit qu'il y a quand même énormément de cas supplémentaires, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi, du comment, les filles hein? Est-ce que vous savez pourquoi on a cette augmentation, cette explosion de cas?
J'imagine que c'est par rapport aussi au train de vie qui change, à notre environnement, je dirais, mais il doit y avoir d'autres facteurs qui jouent, bien évidemment.
Oui.
Moi, je pense que les raisons sont multiples. Une que je vois qui est quand même très très importante, c'est notre rapport au stress. Et c'est du stress continuel, alors que notre organisme n'est pas fait pour ça. Hein, il est fait pour faire face, alors je parle du stress avec des guillemets parce que j'aime pas trop ce terme-là négatif, mais on est fait pour avoir des coups comme ça d'adrénaline, mais pas sur la longueur du temps où on vient épuiser hein, le système immunitaire, entre autres.
Mais clairement, alors effectivement c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'on vit des époques où on est bombardé de pesticides, ce genre de choses. Vous savez que pour moi l'alimentation c'est le fer de lance. Donc il y a beaucoup beaucoup de pesticides qu'on respire, qu'on ingère. Il y a ce fameux stress, bien évidemment, mais il y a aussi les meilleurs diagnostics, c'est-à-dire qu'on les détecte plus tôt. Donc, on a aussi le sentiment qu'il y en a beaucoup plus. C'est une réalité, il y en a beaucoup plus. Hein. Et surtout chez les femmes, parce qu'il y a les désordres hormonaux qui conduisent aussi au cancer du sein, au col de l'utérus, etc. Alors, juste pour ma petite part, c'est vrai que moi, j'en ai eu deux cancers, donc je connais bien le sujet. Hein. Avant de faire mes études, d'ailleurs, hein, mes études m'ont permis, en tant que naturopathe, de me prendre en charge après, mais il m'a fallu deux gros murs pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. Donc, un cancer colorectal et un cancer du col de l'utérus, un tout petit, comme celui de la peau, un tout petit. Voilà, un stade 1. Mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qui peut nous y conduire. Et multifactoriel, j'ajouterais sur le côté émotionnel. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre version aussi des choses. Je travaille beaucoup en consultation sur la relation étroite entre les émotions et les difficultés, maladies, pathologies. Et le cancer, suivant sa localisation, a toujours aussi une connotation émotionnelle. Et clairement, cancer colorectal, par exemple, le côlon, c'est le lâcher prise. Hein, pour vous dire à quel point je savais bien faire avant. Maintenant, ça va un peu mieux, mais voilà ce qui m'a conduit effectivement à développer. Alors, les émotions, c'est pas, ça ne règle pas tout, bien entendu, mais ça apporte une partie en fait de la réponse, de pourquoi. Et je trouve hyper intéressant que tu aies parlé du stress parce que la libération du cortisol, donc qui se passe au niveau des glandes surrénales, juste au-dessus des reins, c'est quelque chose de vital. Le stress nous est vital, puisque c'est pour prendre la fuite, clairement, face à un prédateur, pour avoir envie de se reproduire, pour perpétrer la race humaine, et aussi pour rechercher à manger, puisque c'est vital. Voilà. Mais le stress est devenu quelque chose de quotidien maintenant. On vit dans des sociétés où on fait en sorte que nous soyons sous stress constamment. Donc cette libération de cortisol a des effets extrêmement néfastes. En gros, c'est comme si on ingurgitait tous les jours des tonnes et des tonnes et des tonnes d'acide. En gros, c'est un peu ça. Hein. Voilà. Donc ça nous oxyde. Et puis, ça nous conduit à développer certaines pathologies. Voilà. Mais le stress, il ne faut pas oublier que le stress, c'est vital. On a besoin, en fait, du stress. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup moins confronté à croiser un tigre à dents de sabre, par exemple.
Ça arrive très peu.
Très, très peu. Voilà. Oui. Mais des gens à dents de sabre, ça existe. Ça, moi, j'ai des noms s'il faut. Voilà. Bon, alors comment vous abordez le sujet du cancer quand vous avez des personnes qui viennent vous voir ?
Alors, c'était pas vraiment moi venir me voir, c'est plus moi qui étais allée à la rencontre de ces personnes-là parce que j'étais intervenue dans un hôpital, dans le service d'oncologie. Et c'est assez compliqué en plus dans le milieu hospitalier parce que quand on prévoit de se revoir avec la personne, ben, soit il y a des soins, soit il y a des visites, enfin voilà, il y a très souvent des aléas qui font qu'au final les séances ne peuvent pas forcément se faire. Donc en fait c'était plus pour leur apporter un moment vraiment pour eux, un moment pour pouvoir ben, se retrouver aussi, parce que c'est important, parce qu'au milieu de tout ce brouhaha hospitalier, c'était vraiment leur accorder une pause et qu'ils puissent surtout... Ben, comme tu disais, en parlant des émotions, pour pouvoir verbaliser aussi tout leur ressenti, tout ce qu'ils étouffaient un peu, tout ce dont ils n'osaient pas parler, aussi bien avec le personnel hospitalier qu'avec leurs proches. Voilà, c'était pour leur offrir une parenthèse
que,
générale.
Ce qui est important, en fait, c'est de comprendre que quand il y a un cancer, il y a une atteinte de l'image aussi.
Oui.
Le cancer, c'est vraiment le vilain truc méchant qui est en train de nous grignoter de l'intérieur. Donc, il y a une déconstruction qui se fait au niveau de l'image et on a tendance naturellement à se dévaloriser et à se croire inférieur, etc. Donc il y a vraiment un travail de sape en fait. Hein. Le cancer, c'est pas juste un travail de sape organique, hein. C'est aussi psychologique, ouais. Mental. Donc c'est pour ça que nos accompagnements sont importants également. C'est pouvoir permettre à la personne qui vient nous voir ou qu'on va voir, hein, comme c'est ton cas, de se dire non, je suis toujours une personne, ça ne remet pas du tout en question la superbe personne que je suis, etc., etc. Et donc apporter un vrai soutien par rapport à ça.
Ouais, parce que c'est vrai que bah justement je parlais de l'entourage souvent, bah aussi bien déjà pour la personne qui est concernée que pour l'entourage, il peut y avoir du déni, on peut dire bon c'est pas grave, c'est pas grand chose, ou aussi en fonction des étapes dans laquelle la personne se trouve, si c'est juste après l'annonce ou si c'est pendant le traitement. On passe par plein d'émotions,
ouais,
donc
c'est sûr,
compliqué.
Tu vois, le déni peut être... Alors, le déni peut-être pas, mais en tout cas, le fait de minimiser éventuellement la maladie, ça a aussi un impact fort pour le moral. Parce qu'on le sait, le moral dans toute maladie est franchement hyper important. En fait, ça fait 50% du job pour pouvoir s'en remettre. Donc, peut-être pas forcément le déni, mais en tout cas, le fait de se dire bon, « ça va aller ».
Ouais, et puis
les
attentes qu'on a aussi du traitement, de
ouais,
comment ça
sûr.
Va se passer.
Bon, après, les traitements peuvent être lourds, compliqués. J'ai eu la chance d'avoir des traitements relativement light au final, ce qui m'a permis de continuer à m'occuper par exemple de mes enfants et de continuer à travailler. Mais il y a certaines personnes qui réagissent effectivement très mal aux traitements. Hein. Les traitements sont lourds, mais il y a possibilité d'améliorer en tout cas le quotidien des personnes. Dans mon métier, voilà, avec la naturopathie, l'alimentation adaptée, éventuellement un soutien thérapeutique, que vous, avec vos professions, on va avoir un soutien peut-être plus émotionnel, physique. Et ça, c'est chouette. C'est vrai que les gens qui sont confrontés à ce genre de maladie doivent vraiment se dire qu'il y a plein de solutions, en fait, à leur portée, qu'il y a des choses, en fait, à mettre en place pour aller mieux. Et là, dans l'émission, j'aimerais qu'on aborde justement deux choses, c'est-à-dire la maladie, le combat face au cancer, voilà, avec les traitements, etc., donc dans le quotidien, mais aussi le après-cancer. Ce que j'ai noté et ce qui m'a beaucoup chagrinée, c'est cet après-cancer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est guéri, eh bien, on est tout seul. C'est-à-dire que pendant un certain temps, un certain nombre de mois ou d'années, on va se définir, en fait, par rapport à ce cancer. On est cancéreux. Voilà, ce qui est une aberration d'ailleurs, hein. On porte, on a un cancer, mais on n'est pas cancéreux, on ne devrait pas se définir comme en tant que tel, et du jour au lendemain on est guéri, et il faut retrouver en fait ce que nous étions avant, et on n'a pas forcément de soutien par rapport à ça. C'est-à-dire que le fait de revenir à un quotidien où bah là c'est ok, on est guéri, on s'en est sorti et c'est super. Mais il va falloir renouer avec une vie, avec un quotidien, avec une agitation quotidienne, avec sans forcément le soutien. Et c'est en ça que nos professions sont aussi importantes. Vous êtes OK pour le fait de diviser l'émission en deux parties ? Parce que je pense que vous allez avoir voilà, vos avis d'experte, vous aussi, pour ces deux parties-là.
Tout à fait.
Tout à fait. Bon, alors donc, on va commencer par le traitement. Bah oui, parce que pendant le traitement, on est fatigué. Voilà. Bon, le cancer en tant que tel fatigue de toute façon, puisqu'il attaque le système immunitaire, il fragilise, il fait en sorte qu'on dorme beaucoup moins bien, qu'on mange mal, pas, ou peu, ou trop, ou voilà, ça crée des désordres incroyables. Alors, je généralise en disant le cancer, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les cancers différents, même si j'ai une prédilection pour les cancers féminins, parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup parler des femmes, mais il y a différents cancers. Et les hommes ne sont absolument pas exempts de tout ça. Et puis il y a aussi le manque d'énergie. Alors il y a la fatigue certes, mais il y a aussi le manque de motivation. Au bout d'un moment, en fait, au départ, les traitements, on les supporte plutôt bien entre guillemets, et au fur et à mesure, eh bien, c'est vrai qu'on s'affaiblit énormément, et là, on manque cruellement de motivation. Il y a une destruction de l'image aussi, bien sûr, puisque ça peut conduire à une perte de cheveux, la perte d'une partie de soi aussi, hein. Si on doit enlever un sein, si on doit enlever une partie du côlon, si on doit, voilà. Et vous, comment vous appréhendez ce genre de choses, justement? Qu'est-ce que vous proposeriez pour accompagner?
Moi, les personnes qui viennent me voir et qui sont, la plupart du temps, celles qui viennent me voir, c'est qu'elles sont en traitement, en chimiothérapie.
Tu as peu de cas, Delphine, de post-cancer?
Oui, j'ai peu de cas.
D'accord, t'as plus des accompagnements.
Oui, plus des accompagnements une fois que c'est passé, ou alors je vois des personnes, des femmes principalement, mais ça fait 5, 6, 7, 8 ans que c'est derrière. Donc j'ai pas eu, si tu veux, à les accompagner juste à cette phase d'après. J'ai pas cette expérience. Voilà.
D'accord.
Donc, les personnes qui viennent me voir et qui sont en chimiothérapie, il y a deux possibilités. Ou elles viennent me voir parce que justement, elles sont fatiguées, mais le pan psychologique, où elles ne sont pas prêtes, où elles ne veulent pas en entendre parler, bon, ce qui est pratiquement la même chose. En tout cas, elles ne viennent pas me voir pour ça, et elles vont venir me voir pour récupérer de l'énergie. Donc, là, je propose des massages. On va accompagner sous forme de massage.
Alors, tu sais qu'il y a deux écoles en France quand même. Hein. Il y a les médecins qui sont d'accord pour le massage pendant le traitement, et d'autres qui ne le sont absolument
moi,
pas.
Effectivement, je ne le fais que effectivement quand la personne a l'aval de l'oncologue qui la suit. De toute façon,
nos accompagnements sont toujours sous couvert en fait d'un accompagnement médical, entendu. Hein, on est totalement complémentaires, mais il faut que le médecin soit OK avec ce qu'on va proposer. Ouais. Et qu'il ait donné son autorisation.
Bien sûr, c'est vraiment important et tu as raison de le souligner. Donc, un massage qui va être fait par une thérapeute, quelle soit, est un massage qui est différent d'un massage, évidemment, dans un institut, même s'il est très, très bien.
Bien sûr.
La personne, eh bien, elle va pouvoir se poser, se déposer, et ça va être l'occasion, même si elle n'entame pas une thérapie, un accompagnement thérapeutique, ça va être de pouvoir déposer son émotionnel.
Oui, et tu offres une bulle, en fait, où elle peut déposer les choses.
Voilà, parce que, évidemment, les mains sentent, sentent où il y a des nœuds, les mains sentent où il y a une émotion qui est là. Et ma proposition, évidemment, ça va être de dire... là, je sens... Il y a peut-être un peu de tristesse, là. Ça serait bien de pouvoir mettre des mots dessus. Hein, il suffit de
d'ouvrir les vannes, en fait.
Voilà,
c'est ça. Ouais.
Et voilà, et ça va sortir, et la personne repartira plus légère, et effectivement avec plus de peps, hein, pour redémarrer.
En tout cas, plus légère, ouais.
Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment important.
Il n'y a pas forcément plus d'énergie, c'est au moins plus légère.
Et puis, il y a les personnes qui sont conscientes, et là, je vais rebondir sur ce que tu disais, où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que pour moi, il n'y a pas de combat avec cette maladie. C'est au contraire, la prendre dans ses bras et écouter, entendre ce qu'elle a à dire. Et mon accompagnement est dans ce sens-là. J'essaie au maximum que la personne arrête d'être en guerre contre une partie d'elle qui est en train de lui dire des choses. Et tout le chemin avec elle, ça va être de comprendre ensemble qu'est-ce que ça vient raconter. Où est-ce qu'il y a du non-amour aussi grand que le corps n'a pas eu d'autre moyen que de mettre en place ce cancer pour se faire entendre.
Disons que, comme souvent on peut le dire, c'est que le corps envoie des signaux d'alerte
Bien sûr.
En amont. depuis un paquet de mois ou d'années. Et puis, comme tout à chacun, on a tendance à les mettre sous un torchon, à se dire que ça va aller. Hein, on continue jusqu'au jour où on ne peut plus continuer.
Bien sûr. Donc, ensemble, on va aller à la pêche, je dirais, des souvenirs qui sont bien enfouis, où il y a eu ce non-amour, hein, cette dévalorisation profonde, avec des notes particulières, hein, pour chaque cancer, chaque personne.
Hein. Et oui, c'est le fameux décodage biologique aussi, hein. C'est suivant où est situé le cancer, ça dénote quelque chose, hein, que ce soit le sein, l'utérus, le côlon, la gorge, voilà.
On a
des symboliques, hein. Je vous invite d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, à lire éventuellement le décodage biologique, de Christian Flech, qui est un bouquin extraordinaire, qui donne vraiment la part belle aux émotions et à apprendre à décoder peut-être, hein, quand on a mal quelque part, alors là on parle du cancer, mais quand on a mal quelque part ou qu'on a une maladie, peu importe laquelle, à quoi émotionnellement elle fait référence.
Oui, tout à fait, ça donne déjà une piste. Après, c'est d'individualiser vraiment ça. Parce que
de toute façon, toutes nos professions, hein, sont dans l'individualisation des prises en charge. Nous sommes tous uniques, hein, et on ne peut décemment pas recommander les mêmes choses pour tout le monde.
Hein.
On est tous des petits machins uniques. Et c'est chouette d'ailleurs, c'est ce qui fait notre beauté.
Et donc, pour un petit peu clore ce que je disais, l'important, c'est vraiment d'aller retrouver en fait les parties de nous, souvent très petites, hein, des toutes petites filles ou tout petits garçons ou même bébés, où on a commencé à engrammer, hein, ces non-valeurs, ces non-amour de soi, et de pouvoir surtout libérer et passer à autre chose.
Et toi, Rebecca, alors ?
Il y a plusieurs approches, ça c'est sûr, mais en général, je travaille beaucoup avec la respiration, parce que déjà, ça permet de s'ouvrir à soi-même, ça permet de se poser dans l'instant présent, de se dire « Ok, là, comment je me sens ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui va pas ?» Et c'est très important, je trouve, déjà, moi, pour nouer le contact avec la personne, surtout si je sais que après je vais pas forcément les revoir beaucoup, c'est beaucoup plus facile pour qu'il y ait aussi une ouverture, pour qu'il y ait un lien thérapeutique qui puisse se créer. Et suite à ça, souvent, en plus, ça permet à la personne de, justement, de s'ouvrir et de se dire, bon, ok, donc là, on va parler de ça. Et donc, les émotions sont très importantes à être verbalisées. Et donc, on travaille beaucoup avec la musique, bien évidemment. Soit, si elles ont du mal à verbaliser, elles me proposent une musique, avec ou sans paroles, mais c'est très souvent avec des paroles, qui, au final, définissent vraiment ce qui se passe en eux. Et c'est intéressant à ce moment-là parce que après, au final, ils me redonnent une autre version. Ils refont leur chanson, en fait, leur propre chanson, parce qu'ils ont réussi à bien là écouter les paroles dans un autre contexte qu'habituellement. Et puis, ils peuvent alors modifier, plus ajuster avec leurs propres mots. Et donc, c'est assez intéressant et c'est surtout fort pour eux parce que c'est une grande libération. Ou alors pour certains, je leur propose davantage un temps de relaxation musicale, soit avec des boucles que je crée moi avec différentes musiques, soit avec les instruments et ma voix.
C'est ça qui est incroyable, je trouve. La magie de la musique, c'est celle-ci, c'est que ça fait ressortir ou ça fait émerger, en tout cas, des émotions juste folles, quoi. On a tous nos Madeleine de Proust aussi en musique, où ça nous replonge dans un état, etc. Quand vous étiez adolescente, vous les filles, je suis sûre, tout comme moi, dès qu'on était un peu triste, on mettait que des musiques hyper tristes à pleurer.
Exactement.
Pour bien pleurer, d'ailleurs, où on se maltraitait. Et puis, quand on était joyeuse, on mettait genre Happy Days, voilà. Non, mais c'est vrai, on a la musique a cette capacité en fait de susciter des émotions ou d'en faire sortir.
Ouais.
C'est extraordinaire la musique, c'est voilà. C'est pour ça que je trouve magnifique ton métier parce que tu vis avec ça et tu partages ce genre de choses. C'est un très très joli métier que tu fais.
Et ça permet de voir la musique différemment aussi parce que comme tu dis, on a l'habitude de l'écouter soi. Mais dans le contexte thérapeutique, elle est pas du tout utilisée de la même façon.
Oui, clairement.
Et forcément, le fait qu'il y ait le thérapeute, la personne et la musique, ça fait vraiment un triangle de thérapeutique. Et ça permet que les choses puissent avancer, de débloquer des émotions, de débloquer des situations, enfin plein de choses.
C'est vrai qu'on minimise souvent la musique, mais nous, dans nos pratiques, il nous arrive aussi d'en mettre de la musique pour susciter un état. Voilà, si pendant un massage, par exemple, Delphine, tu mets peut-être de la musique zen, musique douce ou ce genre de choses.
Ah oui, puis j'adore qu'il y ait des bols tibétains, des gongs.
Bah oui, voilà, c'est ça. Des,
voilà,
oui,
pour
oui.
que la personne lâche,
parte. Et puis c'est vraiment un langage universel, la musique.
Ouais. Ouais.
Ah, c'est chouette. Merci beaucoup, les filles. C'est très gentil d'avoir partagé ça. Alors, pour ma part, en naturopathie, vous le savez peut-être, vous qui nous écoutez, c'est une prise en charge très globale, hein, holistique de la santé, un accompagnement complémentaire à la médecine. Et on va être sur une dimension alimentaire, hygiène de vie, hygiène émotionnelle, éventuellement soutien phytothérapeutique. Et c'est vrai que l'alimentation, bah, c'est le nerf de la guerre, hein, clairement. Hein. Enfin, mais c'est valable pour tout le monde. Quand on vient au monde, on respire, ensuite on mange. Voilà, donc c'est que ça a un petit peu son importance. Tout comme la respiration, hein, on aura l'occasion d'y revenir aussi sur la respiration, puisqu'on a tendance à oublier, comme on respire automatiquement, on oublie l'importance. Et dans l'alimentation, pendant une chimio, une radiothérapie, en tout cas, un accompagnement médical du cancer, il faut absolument mettre en place une alimentation adaptée. D'une part, pour continuer à se nourrir correctement, c'est-à-dire à manger, à avoir envie de manger, parce que suivant les traitements, on perd le goût. On a, par exemple, en chimiothérapie, on a un goût un peu métallique. Ferreux hein, dans la bouche, qui est pas très sympa. Donc, pour éviter de se dégoûter de la nourriture, il faut vraiment continuer, hein, même si ça peut être compliqué. Il faut continuer à s'alimenter correctement et surtout pour ne pas se dénutrir, puisque le corps justement a besoin d'encore plus d'énergie et de force. Et tous ces nutriments-là, on les retrouve que dans l'alimentation. Hein, les nutriments, vitamines et minéraux, c'est dans l'alimentation, même si la vitamine D, c'est par le soleil. Mais bon, voilà, on va pas faire de détails. Par rapport à l'hygiène de vie, on va essayer de mettre en place, bien entendu, un sommeil adapté, une activité physique douce, en tout cas, aller s'aérer, s'oxygéner, voir du monde, se faire plaisir. C'est vraiment peut-être même un moment pour lequel on nous accorde une pause, on s'accorde une pause pour prendre soin de soi et peut-être repenser justement notre façon de vivre, parce que là, clairement, on n'a pas d'autre choix que de se laisser un peu porter par ce traitement, etc. Donc, on va en profiter pour remettre en place plein de choses qui font juste appel à du bon sens. Hein. Donc, une bonne alimentation, une hygiène de vie adaptée, un sommeil adapté. Et puis, la phytothérapie. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour les compléments alimentaires. Ça ne fait pas sens pour moi. Mais en tout cas, le monde des plantes est extraordinaire. Et on a besoin d'être soutenu, en tout cas, par rapport au foie. Voilà, déjà, la première émission, j'en avais parlé. Vous verrez, je l'aborde très souvent, le foie, parce que c'est un peu mon chouchou. Voilà, j'ai une affection toute particulière pour le foie. Lui et moi, on est deux amis de longue date. Donc, ce foie, on va le soutenir. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui métabolise toutes les toxines. On l'a vu le mois dernier avec l'alcool, entre autres. Et bien entendu, la chimiothérapie, en tout cas, ces traitements lourds sont très importants pour pouvoir amener la guérison, certes, mais ça crée aussi des désordres et il y a des poisons. Donc, le foie va prendre le relais, il va traiter tout ça. Il faut soutenir le foie. Donc, pour soutenir le foie, on va pouvoir éventuellement se faire de bonnes infusions avec du pissenlit, reine des prés, prêle des champs, ce genre de choses. Et puis, en huile essentielle, là également, on a pas mal d'options. Mais je vous en parlerai un peu plus longuement dans la seconde partie de l'émission, parce qu'il y a plein de choses qui sont totalement interdites quand il y a une chimiothérapie, radiothérapie ou en tout cas, un cancer, par exemple, hormonodépendant. Il y a des huiles essentielles qu'on ne peut pas utiliser ou des plantes. La première qui me vient en tête, c'est la sauge. Voilà, quand il y a un cancer hormonodépendant, on ne peut pas utiliser la sauge puisqu'elle mime les effets des hormones. Voilà. Donc, on évite, bien entendu. Mais avant ça, je vous propose une petite pause musicale. On parlait de la musique, hein, Rebecca, merci. Donc, on va kiffer un petit moment quand même, parce que c'est un sujet un peu sérieux. C'est vrai, au final, je suis vachement cool et vachement sérieuse aujourd'hui. Bon, je vais me débrider après. Deuxième partie, pump it up. Allez, petite pause musicale, on se retrouve tout de suite.
Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do.
Thank you.
De retour sur les ondes, merci de rester avec nous sur Pigouille Radio. J'espère que vous prenez du bon temps avec nous. Je me suis entourée aujourd'hui de Rebecca et de Delphine pour notre émission sur le thème du cancer. Voilà, un thème un petit peu lourd, mais qu'il est important d'aborder puisque on l'a noté en début d'émission, voilà, on a de plus en plus de cas de cancer autour de nous et ce n'est pas juste un hasard, voilà, c'est lié à plusieurs choses, comme on l'a dit, c'est multifactoriel. Alors notre régisseuse adorée Christelle nous parlait tout à l'heure pendant la petite pause du fait que nous n'avions pas abordé à comment éviter en fait le cancer, et c'est vrai que c'est une très bonne chose. Et avant juste d'aborder le après cancer, eh bien on va essayer de donner quelques recommandations pour l'éviter. Alors un grand mot en fait, l'éviter, hein, mais en tout cas il est important de revenir à du bon sens, hein, je le dis souvent. Donc, se prémunir en ayant une alimentation adaptée. L'alimentation du voisin n'est pas forcément bonne pour vous, hein, il faut le retenir. Donc, une alimentation adaptée, mais en tout cas, les grandes lignes, hein, ça va être le moins transformé possible, le plus naturel possible, avec un maximum de fruits et légumes. Bah ouais, je suis désolée les gars, mais en fait, ça c'est valable pour tout le monde. Après, on n'a pas tous les mêmes constitutions, on n'a pas tous les mêmes tolérances, hein, surtout face, entre autres, aux crudités, par exemple. Mais c'est valable pour tout le monde, fruits et légumes. Vous aimez ça, vous, les filles, les fruits et les légumes?
J'adore.
Ouais, c'est bien.
J'adore aussi.
Ouais, c'est pour ça qu'elles sont dans mon association. C'est parce qu'elles sont bien, ces filles. Elles écoutent un peu. Et d'ailleurs, tout à l'heure, elles ont pris un café, elles n'ont même pas mis de sucre. C'est bien, hein, c'est bien. Contrairement à Christelle, je ne pointerai personne du doigt. Enfin bon. Mais bon, on en reparlera en off, hein. Hein, voilà, mais ça sera l'occasion d'une autre émission radio. D'ailleurs, le sucre, parce que c'est trop un sujet que j'adore. Voilà, et le produit laitier, on en parlait aussi pendant la petite pause, voilà, on fera aussi une émission sur les produits laitiers. En tout cas, moi, j'ai pris la décision de vivre ici, hein, dans les studios de Pigouille Radio, donc vous allez m'avoir très souvent sur les ondes, voilà, parce que j'y suis bien et je compte bien y rester. Bim. Donc, se prémunir de ce fameux cancer, quel qu'il soit. Alors oui, l'alimentation, c'est le nerf de la guerre. On l'a dit tout à l'heure, il y a aussi la respiration. Bien entendu, on a très souvent le diaphragme qui est bloqué, donc il faut absolument le débloquer, ce petit diaphragme, parce que c'est grâce à lui que l'on respire, hein. Les poumons ne se lèvent pas et ne se descendent pas tout seuls, c'est grâce au diaphragme. Et la position assise perturbe beaucoup, en fait, le diaphragme, et ce qui me conduit à parler de l'activité physique. On le disait avec Rebecca, voilà, juste ne serait-ce que marcher. En fait, on ne demande pas à aller pousser de la fonte, hein. Il n'y a pas besoin d'aller dans une salle forcément, juste marcher. Parce qu'en fait, on a deux pattes, hein, qui nous servent à ça, à se déplacer. Autant les utiliser. Voilà. Mais c'est pas toujours évident, hein, bien sûr, hein, la sédentarité, elle a vite fait de s'installer de par nos activités, on est très souvent assise, hein, mais aussi, je sais pas, la télé, l'apéro, voilà. On est donc apéro debout, ça c'était un petit clin d'œil avec l'émission d'avant. La télé, bon, ça on peut s'en passer éventuellement, mais je prêche pour ma paroisse. Et puis manger, bon, effectivement, c'est mieux d'être posé. On n'est pas dans l'obligation d'être assise, mais en tout cas être posé pour s'alimenter correctement et en conscience.
Et je vais te rejoindre pour l'activité physique. Une activité qui ne coûte rien, c'est chez soi de se mettre de la musique et de danser.
Et danser, ouais. Ben oui.
Tout simplement.
Et oui, parce que Delphine est une ancienne danseuse, tout comme moi, et c'est vrai que la musique, c'est pour ça qu'on est un peu fan aussi de Rebecca, je pense. Parce que la musique, ça fait clairement, et ça a fait longtemps partie de nos vies. Ouais.
Et oui.
Danser, et en plus, on s'en fout de comment on danse,
mais
même
carrément.
Si on fait n'importe quoi, on y va, on se bouge le cul.
Pardon. Et puis pour rejoindre...
Mais bon, ça y est, j'ai dit que je me lâchais en deuxième partie, hein. J'ai dit que j'étais hyper sérieuse à la première, ça y est, c'est bon, je suis chez moi.
Pour rejoindre ce que fait Rebecca, justement, avec cette musique, ces chansons, c'est de pouvoir sentir par où ça passe dans le corps. Ouais. Comment le corps a envie de se mettre en mouvement sur les sons, hein, qu'il entend. Et puis de laisser...
Et
laisser s'exprimer. Ouais.
Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir les enfants danser.
Ah ouais.
Mais clairement, eux, ils font fi totalement du regard des autres. Et ils vivent complètement la musique. C'est extraordinaire.
Ouais.
J'ai deux petits-enfants. Je suis une vieille mamie. J'ai deux petits-enfants et on se tape mais des barres à danser, voilà, tous les trois, parce que c'est tellement naturel, tellement spontané, tellement waouh, quoi. Ça fait du bien. Donc, ouais, danser, marcher et danser.
Et ce qui est intéressant, quand on danse comme ça, tout seul chez soi, c'est d'entendre ce que notre mental, il nous raconte.
Oui, c'est vrai. Hein? T'as complètement raison.
Oh, quelle grosse vache. T'as vu comment tu bouges.
Ouais.
Oh, mais tu y arrives pas. T'as vu.
Oh, c'était mieux avant quand même. Je bougeais beaucoup mieux avant.
Oui, ouais, ça, c'est ouais. Ça. Tu vois.
Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a rouillé.
Ouais. Et de pouvoir rebondir là-dessus et de se donner les autorisations de bouger, ouais. Quoi, comme on peut bouger, oui, comme non, ça vient, clairement. Comme ça vient pas. Comme...
Et on est tous, c'est vrai qu'on a tous tendance à avoir un regard très dur sur soi-même ou à avoir l'impression que les autres vont avoir un regard très dur sur soi-même.
Et oui.
Donc ça, il faut arriver à dépasser. Moi, je danse partout en fait. Dès qu'il y a de la musique, je danse. C'est terrible. Je suis pas tenable pour ça. Mais c'est pas grave, en fait, je m'en fous. Et plus on avance dans l'âge, plus les gens nous regardent effectivement en disant oh, « ça va, putain, elle a pas honte, quoi, à son âge. »
Alors,
c'est
sérieux,
mais en fait, non.
C'est non, même très pas drôle, honte, non. Parce que moi, je suis, comment dire, je suis frustrée par ma dernière fille. Tu vois, une ado.
Ouais.
Une ado. Alors toi, la mère, quand t'es contente dans la rue et puis que t'as envie de commencer à bouger, t'as l'ado qui fait… Alors,
ouais.
Vous me voyez pas, évidemment, mais qui se retourne et qui dit « Maman, tu me fais honte ».
Ouais. Mais alors, tu vois, ça dépend des ados, parce que j'ai mon petit dernier qui a 15 ans, qui, ouais. Lui, au contraire, il va me regarder, il va être mort de rire, il va danser avec moi.
Bon, on va faire un échange, Valérie,
non,
je vois
que
plus
dalle,
que ça.
Je garde le mien.
Oh.
Ah, bah non. Bon, c'est vrai que la tienne est mignonne aussi, quand même. Bon, allez. Mais bon. Non. On va les mettre ensemble. Bah voilà la solution.
Eh ben tiens, on n'y avait pas encore pensé.
De toute façon, moi j'ai une ancienne carrière de marieuse, je crois. Ça doit être ça. Bon, c'est n'importe quoi. On a complètement dévié de notre sujet en plus, les filles. C'est n'importe quoi, hein, cette émission. Hein. Bon, on se recentre un petit peu, on se concentre.
Oui.
Parce qu'on parle d'un sujet sérieux quand même.
Tout à fait.
Mais on a le droit de plaisanter même sur les sujets sérieux.
Oui, mais tu vois, tout ça, ça vient sur l'avant-cancer.
Et oui, l'avant-cancer. Donc, dans les recommandations, il y a ça, c'est le fait de bouger, l'alimentation. On a parlé du sommeil. Et puis aussi... travailler sur soi-même, justement sur l'acceptation. Ça rejoint l'activité de la danse. Hein. L'acceptation, puisqu'on l'a bien dit hein, tout à l'heure, il y a toujours une connotation émotionnelle dans toute maladie, entre autres dans le cancer aussi. Donc l'acceptation, l'amour de soi, s'autoriser à, en fait, essayer de se tolérer. Ben, on n'est pas dans l'obligation de s'aimer, mais en tout cas se tolérer. Pour en arriver un jour à s'aimer. Mais ça, ça peut prendre toute une vie. Et ça, ça fait vraiment partie des recommandations de la petite posologie matin, midi et soir, s'auto-kiffer. Voilà, c'est bien ça, s'auto-kiffer, j'aime bien. De toute façon, le mot kiff, moi, c'est un mot que j'apprécie beaucoup. Voilà, je le dis souvent d'ailleurs, ami du kiff, bah oui, oui, c'est un peu la phrase d'intro de l'émission Happy Zen et Valérie. Et toi, Rebecca, tu nous donnerais quoi comme recommandation?
Eh bien, je te rejoins justement parce que ça fait écho avec ce que je propose en fait, parce que je propose des ateliers de groupe justement sur la confiance en soi, parce que voilà, les gens ont beaucoup de mal à se montrer aux autres, en fait, déjà se montrer à eux-mêmes, à se dire, oh là là, faut pas, c'est mieux d'avoir des œillères, en fait, sur qui je suis vraiment. Et voilà, je propose ces ateliers, en plus, c'est des petits groupes, donc vraiment, c'est une petite bulle, en fait, pour les personnes, pour qu'ils puissent se retrouver. Et donc, à travers, bah, la danse, c'est très bien, parce que moi, c'est sur l'expression corporelle et sur la voix, et pour qu'ils puissent s'ouvrir et qu'ils se rendent compte que, ben ouais, en fait, ils peuvent vivre, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'être eux-mêmes.
Oui, voilà. Et tu as raison d'ajouter la voix. Le chant, c'est extraordinaire, c'est pareil, moi, je chante comme une casserole, c'est... assuré.
Mais oui,
j'adore
mais
ça.
On n'est pas là pour apprendre dans
mais,
tous les cas.
Voilà.
On peut chanter comme
j'adore
une casserole.
J'adore ça, en fait. Mais je chante à tue-tête. Je suis venue ce matin dans la voiture. La musique était à fond. Je chantais comme une malade. Christelle nous a confié qu'elle avait de nouveau fait un karaoké il y a très peu de temps. Je ne désespère pas d'en faire un avec elle. On va partager le micro. Oui, chanter, ça fait un bien fou, au fait. Ça permet de faire vibrer des choses à l'intérieur. Qu'on chante bien ou qu'on chante mal, on s'en fout. On n'est pas là pour gagner The Voice. Voilà. Mais en tout cas, ça fait partie des recommandations, du kiff.
Il y a quand même beaucoup de choses qui vont sortir, même s'il n'y a pas de parole, on extériorise et c'est ça qui est important.
Mais oui, ben, merci beaucoup. Ouais, c'est bien ça. Voilà, le avant, c'est fait. Le avant, c'est... voilà, on s'autorise du kiff, on mange correctement, on respire bien, on dort bien, on se bouge. Et déjà, on aura fait un sacré boulot. Donc, on va passer maintenant au après, parce que oui, il y a le avant, il y a le pendant et il y a le après. Et comme je disais tout à l'heure, le après est pas toujours bien soutenu. C'est pas grave en soi, mais on est là justement pour apporter quelques pistes de soutien, quelques méthodes pour se soutenir dans le après, dans la reconstruction de l'image, la reconstruction de la vie, reconstruction du corps. C'est important en fait de se dire que oui, c'est chouette, on est guéri, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le corps a bien morflé, la tête a bien morflé, et il faut reprendre. On a l'impression qu'il y a une espèce d'injonction en plus. Oh, ça y est, c'est bon, t'es guéri. Ok, ouais, c'est vrai, je suis guéri, c'est cool, je suis content et tout. Mais je fais quoi? Je suis cuit? Où je vais? Comment je vais faire? Est-ce que je reprends la même vie qu'avant aussi? Parce qu'il y a tout ça, en fait, cette pause qui nous a été obligée au final, parce que clairement, c'est quand même un sacré coup de poing hein, qu'on se prend hein, quand la maladie est là et quand on est dans l'obligation de s'arrêter pour prendre soin de soi, parce que c'est pour beaucoup une espèce d'obligation. Il faut mettre en pause le boulot, parfois la famille, les amis, on n'a plus l'énergie qu'on pouvait avoir. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas reprendre sur les chapeaux de roue, même si c'est pour certains, et je prêche pour ma paroisse, une torture de ne pas pouvoir reprendre sur les chapeaux de roue. Mais c'est se dire, ok, mais j'en ai tiré une leçon, en fait. J'en ai tiré une leçon, et effectivement, je vais peut-être envisager les choses différemment et me pencher un peu plus sur moi. Dans notre société, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, le fait de se pencher sur soi, sur son petit nombril, c'est considéré comme étant de l'égoïsme, du nombrilisme, du narcissisme. Non, mais en fait, la seule personne avec qui on va vivre toute notre vie, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est certainement la phrase que je dis le plus en consultation. Donc, non, c'est pas de l'égoïsme que de penser à soi. C'est vital, en fait. Il y a personne d'autre qui va penser à nous. Et se repencher un peu sur ses propres désirs, ses propres volontés, ses envies, ses non-envies aussi, c'est vraiment aller tout doucement vers l'amour de soi. Donc vers potentiellement pas un deuxième cancer, voilà, parce que bon, moi il m'en a fallu deux hein, pour comprendre, voilà, parce qu'il y a des têtes de pioche et voilà, il y a des personnes, et je suis pas à l'abri peut-être d'un autre, hein, puisqu'on passe toute notre vie à travailler sur soi, mais c'est vraiment se dire, ok, je bosse sur moi, il y a des choses dont je n'ai pas envie, plus envie, et il y a des choses que j'ai fait par obligation, parce que j'ai considéré qu'on m'obligeait, sauf qu'en fait on a le pouvoir de décision, donc ça c'est une belle chose.
Je vais rebondir sur ce terme de bosser sur soi, où je suis tout à fait d'accord. Hein. Et pour moi, ce chemin hein, que l'on emprunte, c'est pour enlever des manteaux trop étriqués hein, qu'on a enfilés au fil des années pour X raisons dans notre vie. Et là, c'est de prendre du temps avec soi pour les enlever, ces manteaux, et aller retrouver vraiment l'être que nous sommes. Et moi, cet être que nous sommes, je l'appelle cette étincelle divine qui est au cœur de notre cœur. Mmh. Et c'est vraiment, pour moi, c'est à ça que sert une vie. C'est d'aller connecter avec cet espace et où on ne peut que ensuite s'aimer et réellement aimer les autres.
Oui, mais je suis d'accord avec toi. Le fait de s'aimer, c'est aimer les autres. Ah. Clairement. Puisque avant, on est dans une espèce de représentation.
Oui. Ouais. Pour ma part, quand j'ai commencé tout ce cheminement, j'avais mis une étiquette invisible sur mon front de la sauveuse.
Et le triomphe de Karma.
Bah oui. Hein, mais qu'est-ce que je cherchais derrière ça? C'est de l'amour. Hein.
Mais bien sûr, de la reconnaissance.
Bien sûr.
De la considération et de l'amour. Mm. Bien sûr. Et c'est ça qui est chouette, c'est que nous, nos professions nous permettent en fait d'aborder, de toucher du bout du doigt tout ça, et de travailler aussi sur nous. Hein. On ne devient pas thérapeute pour rien.
Bien sûr.
Et on continue
à travailler sur nous.
Bien sûr que oui. Et on est tout au départ, hein, justement, dans ce syndrome de sauveuse. Hein. On a l'impression qu'on peut sauver. Mmh. Pourquoi on cherche à le faire? Voilà. Bah, clairement, c'est pour travailler sur nous. Et c'est chouette, hein, parce que on en apprend tous les jours et on a toute une vie pour apprendre. Voilà, le tout, c'est... Je pense pas qu'on arrive à tout solutionner. En tout cas, nous concernant, je parle pas des autres, hein, parce que clairement, le syndrome du sauveur n'existe pas. Enfin, on n'est pas là pour sauver les autres. Voilà, chacun se sauve lui-même. On est là pour apporter des outils, des cartes avec lesquelles les personnes vont pouvoir jouer. Voilà, vraiment des outils, une caisse à outils. Mais on ne sauve pas les autres, hein, c'est les gens qui se sauvent eux-mêmes. Donc nous, voilà, on est sur ce chemin-là aussi, et peut-être qu'on n'arrivera pas à tout résoudre, mais c'est pas grave, puisque chaque petite chose qu'on arrive à résoudre est un pas de plus vers l'amour de soi. Voilà. Oh, c'est carrément beau, oh, et c'est carrément du love, cette émission. Oh là 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 là, c'est trop beau, j'adore. Et c'est ça qui est chouette avec les émissions radio, et on espère que vous apprécierez, vous aussi qui nous écoutez, c'est voilà, apporter des solutions, de l'humour, de la joie, mais surtout de la bienveillance. Voilà, apprenez à vous aimer, à vous respecter, pour mieux respecter les autres. Oh, les filles, vous êtes bouche bée. Hein. Ah, oh, c'est bah génial.
Oui,
hein.
Oui, oui,
ah, ouais,
oui, oui.
J'adore quand vous me kiffez comme ouais. ça, que vous m'écoutez parler. J'adore. C'est extraordinaire. J'en dis des conneries. Hein. Ouais, je sais. C'est un peu ma marque de fabrique. D'ailleurs, va falloir en prendre l'habitude parce que ça va être comme ça bah, tout le temps. Donc, j'espère bien entendu que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, que ça vous fera rire, sourire. Ou alors, si, bah, si ça vous plaît pas, bah, vous n'écoutez pas. Et puis, c'est tout. Et puis, voilà, j'ai envie de vous dire. Parce que j'espère bien être de plus en plus à l'aise et dire de plus en plus de conneries. Bon. Parce que là, c'est la deuxième sur Pigouille. Donc, je suis un peu toute nouvelle là, sur cette onde-là. Donc, voilà, je fais ma timide encore. Ah, bah oui, ça se sent. Allez, continuons avant, avec le après. Alors, je me suis fait une petite liste. Parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des huiles essentielles à ne surtout pas utiliser, hein, voilà, et que bah, des fois j'oublie, et comme je me laisse emporter par le flot de la conversation, j'oublie des trucs. Donc je vais vous lire, ce qui arrive très rarement d'ailleurs. C'est
que tu lises.
Alors que je lise, non, à la radio. Mmh. Donc je lise, je passe mon temps à lire, mais que je lise à la radio, parce que moi je suis plutôt en freestyle d'habitude. Les huiles essentielles, il y en a certaines à proscrire, hein, par rapport surtout aux hormones. Voilà, donc au cancer hormonodépendant, ok. Donc, je parle des huiles en interne, mais aussi en application cutanée, des huiles essentielles en application cutanée. Je passe mon temps à dire, attention, c'est pas parce qu'elles sont en vente libre qu'elles sont sans danger.
C'est extrêmement puissant.
C'est incroyable d'efficacité, mais aussi de danger. Dans la nature, on a les deux, hein. On a des poisons, on a des remèdes. Donc, il faut connaître. Et c'est pour ça aussi que je dis très souvent sur les ondes, n'hésitez pas à poser la question. Vous pouvez trouver mes coordonnées très facilement. Vous me passez un petit coup de téléphone ou vous m'envoyez un message ou vous demandez à un pharmacien qui est formé ou autre. Mais ne prenez rien sans avoir un conseil avisé et avéré.
Moi, quand voilà. Je sais pas, j'envoie un SMS à Valérie.
Ben oui, bien sûr. Et moi, je suis contente de répondre, en fait. Après, j'ai pas réponse à tout, clairement. Mais j'ai pas mal d'outils dans ma besace et ça peut aider et... éviter peut-être des complications. Donc dans ces huiles, je vous ai parlé tout à l'heure de la sauge, hein. Donc en plante, mais c'est valable pour l'huile essentielle aussi bien entendu. La sauge, l'anis, hein. Le cache-pu, voilà, qui est très peu utilisé, mais voilà, la camomille matricaire, le cèdre de l'Atlas, qui est extraordinaire, hein, clairement pour la zone pulmonaire, mais on va éviter. Le céleri, qu'on utilise assez peu en huile essentielle, mais qui existe, il faut le savoir. Le cyprès de Provence, le fenouil, et ça c'est bien dommage, puisque c'est très efficace pour le foie. Le genévrier, là aussi pour le foie. Le niaouli, alors ça c'est une huile essentielle qu'on utilise beaucoup, surtout en hiver, pour tous les petits virus, toutes les petits microbes là qu'on peut avoir, les joyeusetés de l'hiver. Eh ben non, on évite niaouli. Le patchouli, le romarin à verbenone et le ténésie. Voilà, ça ce sont des huiles vraiment à proscrire, tant en usage interne qu'en application cutanée. Après, on me pose souvent la question pour le pamplemousse. Vous le savez peut-être, les filles, les médecins disent d'éviter le pamplemousse quand on a des traitements médicamenteux parce que ça peut interférer. Alors c'est valable pour le fruit, pour le pamplemousse, mais pas par exemple pour l'extrait de pépins de pamplemousse. Voilà, donc ça c'est bon à savoir aussi. Et moi je vous encourage à utiliser l'hiver bien entendu, mais quand vous combattez une maladie, peu importe laquelle d'ailleurs, là on parle du cancer, mais peu importe, parce que ça vient vraiment stimuler les défenses immunitaires, en tout cas soutenir profondément le système immunitaire. Voilà, à peu près. Après, il y en a plein d'autres hein, qu'on va interdire, mais dire de faire attention, comme l'amande poivrée, l'eucalyptus, ce genre de choses. Mais en application cutanée ou en olfaction, ça posera pas de problème. Voilà, Rebecca, tu voulais ajouter un truc ?
Non, c'est justement parce que j'allais te poser la question, mais tu y as répondu, c'est pour ça que je n'ai finalement rien dit. Parce que j'avais beaucoup entendu que les pépins de pamplemousse étaient très bons pour l'hiver, ouais. Pour se faire des petites cures et pour repimper l'organisme.
Complètement.
Donc, si tu valides...
Ah, mais voilà. Complètement. petite astuce, il suffit par exemple d'avoir un herpès ou... tu sais, petits trucs comme ça, désagréables autour de la bouche ou autre, on applique en fait de l'extrait de pépins de pamplemousse directement dessus et au top de l'efficacité, hein, vous en débarrassez en deux jours. Voilà, bon, c'est des astuces, voilà. En tout cas, faut pas hésiter parce que moi, ça, j'adore. En fait, la trousse à outils naturelle, je la kiffe, clairement. Dans la nature, on a la chance d'avoir énormément de choses à notre portée. Après, vous verrez que souvent, mes recommandations, elles sont basées sur ce qu'on a ici. Franco-français déjà, mais aussi en local, régional. En fait, ça sert à rien d'aller utiliser des choses qui viennent du bout du monde. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais
On a plein de choses à notre portée. Je parle souvent du pissenlit et de l'ortie. Très, très souvent, voilà, on les a à portée de main. Autant utiliser des choses qui, voilà, qui sont de chez nous.
Mais c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, la plante, elle vit dans un certain écosystème.
C'est ça.
Si tu l'enlèves de son écosystème, bah, elle a déjà beaucoup moins de puissance. Donc, c'est pas qu'elle va servir à rien, parce que ça sert toujours, mais elle va être beaucoup moins efficace.
Oui, moins adaptée aussi aux personnes que nous sommes. Par exemple, la médecine traditionnelle chinoise que j'adore, ou l'Ayurveda, la médecine indienne, je trouve ne sont pas totalement en fait adaptés à notre façon de vivre en tant qu'Européens ici, parce que on développe aussi des compétences, des facultés biologiques, organiques, suivant notre terre de naissance, et donc les plantes chinoises vont pas avoir le même impact sur notre organisme d'Européens que là-bas. Comme par exemple, donc on fera un jour une émission sur les produits laitiers. Notre corps, nous, en tant qu'Européens, s'est habitué, à force de nous faire consommer des produits laitiers, voilà, s'est habitué à développer une espèce de tolérance aux produits laitiers, même si je mets vraiment des guillemets à tout ça, ce qui n'est pas du tout le cas des Asiatiques, qui eux n'ont pas de produits laitiers, et c'est très bien, dans leur alimentation, et donc ils sont totalement intolérants. Quand ils viennent en France, qu'ils mangent des produits à base de, enfin, des aliments à base de lait, ils sont extrêmement malades. Donc on développe aussi, en fait, des capacités ou des tolérances ou intolérances par rapport à notre pays. Voilà. Donc autant utiliser des plantes de chez nous. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, j'ajouterai, je terminerai dans les recommandations avec deux choses que j'aime énormément, c'est la propolis et le pollen. Vous utilisez le propolis ?
Alors, je sais que c'est très, très bon, mais pour moi, c'est immangeable. Je ne peux pas.
Alors, la propolis, c'est bien de la consommer sous forme de gouttes, éventuellement, dans son mode de conservation ancestrale, c'est-à-dire, c'est mis à tremper dans de l'alcool, voilà. Mais c'est des choses incroyables. Les produits de la ruche, en fait, sont des produits juste incroyables. Et je m'intéresse de plus en plus à nos chères abeilles, parce que elles sont très, très malmenées, hein, depuis quelques années. Et c'est très inquiétant, d'ailleurs. Il faut savoir que les produits de la ruche, on n'a absolument pas fait le tour des bienfaits. On estime qu'il y a à peu près 5000 bienfaits, que ce soit le miel, la propolis, le pollen ou autre. 5000 bienfaits, et on en utilise, je sais pas, peut-être 200. Voilà, on ne parle que de 200 bienfaits, à peu près, sur au moins 5000. C'est incroyable.
Et par rapport à cela, encore une chose que j'entendais beaucoup, surtout quand j'étais petite, où on me disait qu'il fallait prendre une cuillère de gelée royale par jour pour être protégée, immunisée,
oui,
tout ça.
Clairement.
Est-ce que c'est vrai?
Ah oui, complètement. Oui. Alors, quand on était petite, il y avait aussi l'huile de foie de morue, mais c'est beaucoup moins bon que la gelée royale. Voilà. Mais je l'ai connue. Bon, je suis pas si vieille que ça, hein, mais je l'ai connue quand même. Et c'est dégueulasse. Enfin, bon, bref. Donc, oui, gelée royale, propolis ou autre. Mais gelée royale, c'est un bon exemple parce qu'on peut en donner aux enfants sans aucun souci. La propolis, si elle est conservée dans l'alcool, bon, c'est plus, voilà, c'est plus compliqué. Mais, oui, bien sûr. Alors, pour les défenses immunitaires, pour l'énergie, pour la peau, pour les cheveux, pour... on fait tout. Ouais.
Et parce qu'au final, c'est vrai que je l'entendais énormément quand j'étais petite, mais maintenant, enfin, c'est passé, cette information à la trappe,
oui,
malheureusement.
Mais...
Donc,
oui, et les émissions radio, elles sont là aussi pour remettre un peu au
exactement.
Goût du jour les fameux remèdes ancestraux de mamie, parce qu'ils sont extraordinaires. Voilà. Bien sûr que ça n'empêche pas de consulter un médecin, de prendre un médicament, mais en complémentarité ou pour des petits bobos du quotidien, ce que moi j'appelle la bobologie, bah effectivement, on a en fait à notre portée des choses qui sont extrêmement efficaces. Et très souvent, on me targue en me disant « oui, mais ça a moins d'efficacité qu'avant, parce que maintenant il y a plus de transformation de pesticides ». Certes, il y a peut-être des choses qui ont moins d'efficacité, mais ça reste efficace. Et ça évite de surcharger aussi le corps d'informations contradictoires ou autres. Donc oui, ces petits remèdes ancestraux, alors moi je suis carrément une militante, hein. Carrément, hein. Les infusions, la gelée royale, la propolis, bah oui, bien sûr. Et tout à l'heure, je parlais en rigolant de l'ortie, mais punaise, les gens, c'est pas de la mauvaise herbe, hein. C'est incroyable, l'ortie. Ça a des vertus incroyables. Et dans l'alimentation, c'est super bon. En plus, moi, je fais des quiches et des tartes aux orties et des soupes aux orties. C'est super bon.
Alors, le petit truc, quand même, pour les orties que j'ai appris à mes dépens et j'ai eu la ça solution pique. Grâce
tu savais
à toi.
Pas
si, je sais que ça pique quand je la ramasse. Mais, moi, je me faisais des infusions de mon jardin. Et un jour, j'appelle Valérie. Je lui dis, Valérie, c'est normal que ça me gratte dans la gorge, mon infusion d'ortie. Et là, Valérie tombe des nues, me dit « Quoi ? Tu savais pas ? Il faut la faire tremper avant. »
Mais oui, pour qu'elle
donc,
perde sa capacité
voilà,
urticante.
Hein, si vous voulez prendre les orties de votre jardin, faites
que
tremper un quart d'heure
mais
vos
voilà.
orties avant de les mettre en infusion.
Eh oui, hein. Mais oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je suis là. Voilà, c'est pour répondre à certaines questions comme ça. Mais oui, bien sûr, les orties, ça pique. Bon, bah, il faut qu'elles perdent leur capacité urticante juste en les trempant un peu. Voilà. Et sinon, faites-les sécher. On les fait sécher à température basse et comme ça, vous pouvez les utiliser après l'infusion ou en paillettes, sur de la soupe, autre. Les orties, c'est vraiment extraordinaire. Le pissenlit, j'en parlais aussi tout à l'heure, le pissenlit, nos grands-parents mangeaient des salades de pissenlit. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est très très bon pour le foie. Ça permet de soulager. Hein. Le petit repas un peu copieux avec le pinard tout au long du repas et tout, hop, petite salade de pissenlit et ça ira beaucoup mieux déjà.
Alors, ah je suis pas naturopathe, hein, mais quand même, la petite bouillotte chaude aussi sur le foie le soir en s'endormant, c'est pas mal non plus.
Ah oui, alors en plus, c'est hyper apaisant. Ouais. Ça fait partie de mes recommandations. J'aime beaucoup quand tu me cites, Delphine.
Ah, mais là, je te citais pas. Je me citais toute seule comme une grande.
Mais oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a à notre portée, en tout cas, plein d'outils intéressants, faciles à mettre en pratique dans le quotidien. Si vous avez besoin de plus de précision ou vous avez envie, en tout cas, de venir à notre rencontre ou, voilà, de nous contacter pour X raisons, mais en tout cas, pour ce thème, par exemple aujourd'hui du cancer, vous n'hésitez surtout pas, je vais demander aux filles de d'ailleurs vous transmettre leurs coordonnées.
Alors donc, vous me trouvez sur mon site Douceur d'être soi et bon, il suffit...
Ton numéro de téléphone.
Mon numéro de téléphone,
ouais,
là, comme
peut,
ça, à l'antenne.
Sûr.
Allons-y,
mais
de
oui.
toute façon, on le voit partout. Donc,
bon ben bah voilà,
donc,
alors.
Donc 06 60 41 23. 04. Et je suis à Saint-Symphorien, mais j'accompagne aussi en visio. Donc, si vous êtes un peu loin, n'hésitez pas, la visio, c'est super.
Voilà,
aussi.
Et c'est donc Delphine Couton, parce qu'elle n'a pas précisé son nom.
Merci Valérie.
Allez Rebecca.
Et pour moi, bon, c'est Rebecca Beer, mais sur tous les réseaux, je suis plus connue sous Rebecca Musicothérapie. Donc bon, je suis sur Facebook, Instagram, j'ai mon site internet, pareil, intitulé RebeccaMusicothérapie.com. Donc assez facile à trouver normalement si vous mettez bien Niort. Et donc pour le numéro de téléphone, c'est le 06 45 87 94 73 et donc je suis comme dit précédemment sur Niort et je peux aller dans les villes aux alentours pour faire des séances à domicile.
Merci beaucoup les filles. Moi je suis ravie de vous avoir eu. Ce qui est chouette dans ces émissions, c'est que ça va permettre aux gens de vous connaître, hein, de mettre en lumière vos professions aussi, de parler un peu de tout ce qu'on peut apporter, faire parce que l'accompagnement est important pour nous. On a plein d'outils. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, vous qui nous écoutez, à nous solliciter si besoin. Et puis juste à kiffer en écoutant nos émissions et en partageant sur les réseaux, c'est important. C'est comme ça qu'on permettra aussi à Pigouille de se développer, parce qu'on aime beaucoup cette radio et on est bien dans le Marais Poitevin. Vous voyez, moi je râle souvent en disant « Ouais, bon allez, moi je suis en Charente-Maritime, tout ça, tout ça. » Mais bon, allez, je le reconnais, je kiffe le Marais Poitevin. Carrément. Voilà, donc je suis ravie. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de Pigouille Radio. Et puis, prenez soin de vous. Vous avez toutes les cartes en main.
Au revoir.
Merci pour l'écoute.
Écoutez cette émission tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 16h. Et tous les premiers dimanches du mois à 15h.
Pigouille Radio, les liens qui font du bien.